Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Audible Studio présente Tout s'arrange avec des mots de Marie Andersen, lu par Isabelle Miller. Avertissement. Les exemples qui illustrent cet ouvrage sont tous inspirés d'histoires vraies, mais ils ont été librement remaniés pour pouvoir les partager avec les lecteurs aussi utilement qu'anonymement. C'est la musique qui est difficile. Voilà la vérité. C'est la musique qui est difficile à trouver pour se dire ces choses, quand on est si proche l'un de l'autre. La musique et les gestes pour dissoudre le chagrin, quand il n'y a vraiment plus rien à faire. La juste musique pour que ce soit une danse, un peu, et non pas un arrachement de partir, de se laisser glisser loin de l'autre, vers la vie et loin de la vie. Étrange pendule de l'âme, salvateur et assassin. Si on savait danser cette chose-là, elle ferait moins mal. Et c'est pourquoi les amants, tous, cherchent cette musique à ce moment-là, à l'intérieur des mots, sur la poussière des gestes. Et ils savent que s'ils en avaient le courage, seul le silence pourrait être cette musique, musique exacte. Un vaste silence amoureux, clairière de l'adieu, lac fatigué qui s'écoule enfin dans la paume d'une petite mélodie connue depuis toujours. À chanter à mi-voix. Alessandro Baricco. Pour Félix. Introduction. Le langage nous relie autant qu'il nous sépare. Émouvant lorsque nous parlons d'amour, il se fait apaisant pour l'enfant inquiet et bienveillant pour les amis en difficulté. Nos mots sont précis pour transmettre des informations sensibles et encourageants lorsqu'ils soutiennent les efforts de nos proches. Nos paroles réconfortent, félicitent et consolent, mais elles peuvent aussi déstabiliser et faire de sérieux dégâts. Leur maladresse engendre confusion et malentendus et alimente de pénibles disputes. Elles peuvent panser les plaies autant que blesser les cœurs. Il arrive que nos propos dépassent notre pensée et nous payons ensuite le prix de nos déclarations intempestives. Alors que nous voulons convaincre, nous exagérons et nos tentatives s'avèrent contre-productives. Tandis que nous voudrions aimer, nos paroles nous éloignent chaque jour un peu plus. Quand nous plaidons notre cause, nous perdons pied. Parfois, nous ne trouvons pas les mots, nos émotions demeurent enfouies, notre colère n'ose pas s'exprimer. Notre humour reste timide et notre affection muette. Nous n'arrivons pas à dénouer les fils qui nous enserrent et brident nos relations. Nous pouvons éviter ces dérives malheureuses en apprenant à communiquer. Entendre vraiment ce que vit et dit l'autre, clarifier ce que nous ressentons et l'exprimer avec exactitude, c'est possible. Prévenir les embrouilles et résoudre nos problèmes relationnels en dialoguant intelligemment, tout en nuances et avec respect, cela s'apprend. Les mots deviennent alors des mains tendues au-dessus du vide. Les erreurs se corrigent, les malentendus se dissipent et les tensions se dénouent. La concorde règne à nouveau et les sentiments affectueux s'en nourrissent. Bien communiquer rend heureux. L'esprit apaisé, nous nous sentons sereins et en lien avec les autres. Nous sommes à jour avec la vie. Dans notre monde hyperconnecté, malgré la multitude et la rapidité des échanges, tels qu'aucune culture n'en a jamais connu, nous communiquons assez pauvrement. La vitesse l'emporte sur la finesse et évince l'analyse. La réaction immédiate empêche le recul, affaiblit la réflexion et favorise l'imprécision autant que l'impulsivité. Nous perdons la capacité à élaborer une pensée structurée et rigoureuse, et plus encore à l'exprimer avec l'attention et les subtilités que sa complexité singulière requiert. Nous aurions pu apprendre à communiquer avec justesse dès l'enfance, Mais dans certaines familles, on ne parle pas. Dans d'autres, on parle trop et en tous sens. Ici, le verbe est superficiel. Ailleurs, il est assassin. Rares sont les familles où les conversations sont toutes agréables, pertinentes et respectueuses des âges et des personnalités. Mais rien n'est irréparable. Nous pouvons découvrir aujourd'hui les mécanismes d'un dialogue mené en toute conscience et constater combien il permet d'éviter les incompréhensions et les tensions inutiles. Mieux nous comprendre les uns les autres nous rend plus proches et plus confiants. Nous apprenons à aller au bout de nos pensées, à nous exprimer avec attention, à demeurer conscients du but poursuivi et responsables de nos paroles, à nous affirmer avec respect de l'autre et de nous-mêmes, et à nous affronter si nécessaire, sans que les désaccords ne se transforment en querelles. La communication interpersonnelle est très riche. Elle comprend l'écoute et l'expression dont la danse fluide équilibre les tête-à-tête. Elle repose sur l'expression autant verbale que non-verbale, dont l'importance est insoupçonnée. Elle mêle le rationnel et l'émotionnel, le conscient et l'inconscient. Pourtant, avant même de se parler, il convient de se comprendre soi-même, de savoir ce que l'on veut dire exactement et dans quel but. Bref, ce n'est pas simple. Mais c'est passionnant et très utile. Les relations nécessitent un échange, des mots pour se dire et se comprendre. Toutefois, nous n'accordons pas la même portée aux paroles selon que nous les exprimons ou les entendons. Nous faisons beaucoup d'erreurs d'interprétation. Un message peut sembler pertinent pour celui qui l'émet, mais arrogant pour celui qui l'écoute, et la suite risque d'être biaisée par cette discordance initiale. Il ne suffit pas de parler. Encore faut-il savoir comment nous sommes compris. Professionnellement, le verbe est un de mes outils les plus précieux. Depuis 3 bonnes décennies, mon travail de psychologue et de thérapeute m'amène à décrypter la dynamique et les subtilités du langage. Comme tout le monde, j'ai dû apprendre à m'exprimer et à écouter. J'ai découvert la complexité de la communication et ses rouages. J'en connais aujourd'hui la puissance et l'utilité. Les mots clarifient. Ils ouvrent des petites clairières lumineuses dans nos pensées embrouillées où germent alors des résolutions ajustées. Ils apportent de la sérénité là où sévissaient les interrogations inquiètes. Les mots guérissent nos blessures d'enfance et renforcent nos positionnements d'adultes. C'est cette connaissance que je voudrais partager avec vous par l'écriture de ce livre. Pour lui donner une structure, j'ai choisi de distinguer l'écoute, que je traiterai au 2e chapitre, l'expression au 3e et la communication au 4e et dernier chapitre. Ces 3 volets reposent sur une analyse du terrain qui fait l'objet du 1er chapitre. Boileau nous dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » C'est si vrai et tellement énervant. Cela a l'air si simple. Mais bien concevoir ce que nous souhaitons exprimer impose de nous comprendre nous-mêmes, de sortir de nos confusions internes et d'arriver à mettre des mots sur nos désirs et nos émotions. C'est probablement la partie la plus difficile de la communication, mais c'est l'indispensable premier pas. Faire le ménage en soi. Cela nécessite de prendre du recul, d'avoir une bonne capacité d'introspection et une sérieuse honnêteté à son propre égard. Se leurrer soi-même est la chose la plus facile qui soit pour maintenir ses croyances et ses convictions, et faire du surplace. L'expression spontanée est charmante, mais ne suffit pas pour éviter les malentendus. L'impulsivité n'apaise pas les tensions relationnelles. Le dialogue destiné à déchiffrer et résoudre les problèmes entre personnes prend racine dans un terreau qu'il faut d'abord bien préparer. La communication est l'aboutissement d'un bon travail de clarification de nos pensées et d'ajustement des mots avec notre ressenti, tout en ne perdant pas de vue le but que nous souhaitons atteindre. Nous allons donc prendre le temps d'éclairer ce contexte multiforme et complexe, afin qu'ensuite l'écoute, l'expression et la communication y puisent force, respect et efficacité. C'est le sujet du premier chapitre. Allons-y. Chapitre 1. Reconnaître. Cherchons nos lumières dans nos sentiments. Il y a là une chaleur qui contient beaucoup de clarté. Joseph Joubert. Il est surprenant de constater combien nous nous méprenons vite. Je l'observe à longueur de temps. Hier encore, nous étions en train de refaire le monde avec quelques amis autour de la table. Le débat était animé et une des convives déclara, sur un ton dont la modestie me paraissait destinée à temporiser la portée de ce qui allait suivre, « Je n'ai pas la prétention de tout connaître, je ne me base que sur ce que j'ai vécu, mais je trouve que… » Personnellement, j'y voyais une marque de prudence et de modération, mais l'ami à qui elle s'adressait ne l'a pas entendu de cette oreille. Il a compris qu'elle lui signifiait qu'il était prétentieux et qu'il pensait tout connaître. Ce malentendu a temporairement plombé l'ambiance et empêché la poursuite intéressante du débat. L'interlocuteur irrité est devenu passablement agressif. L'ami maladroite s'en est offusqué et a tâché un peu vainement de se justifier. Bref, ça pataugeait. Je n'ai pas la prétention. Était-ce un petit dérapage innocent ou une intention vexatoire cachée? Et l'interprétation qu'en a faite l'interlocuteur était-elle judicieuse ou tendancieuse? N'aurait-il pas profité de ce mot malheureux pour remettre au pas cette femme qui le contrariait? Et elle, ne s'était-elle pas autorisée, avec ce choix de vocabulaire, à exprimer plus qu'elle ne semblait en dire? Même proches, nous ne nous comprenons pas très bien. Nous avons tous une construction psychique particulière. Pas une n'est semblable à l'autre. Chacun porte son histoire, ses références, ses systèmes de décodage et divers autres enjeux. Chacun sur une rive du fleuve, nous jetons nos messages par-dessus les eaux. Nous les attrapons au vol ou les perdons dans les hautes herbes. Des déclarations adorables qui se dégustent avec tendresse, des compliments qui font un bien fou, des demandes claires auxquelles nous pouvons apporter des réponses directes, sans crainte. Certaines interventions nous prennent par la main et nous sortent de la confusion avec beaucoup de délicatesse. Il est des mots qui nous font grandir, des paroles que nous n'oublierons jamais, qui marqueront notre vie définitivement d'une belle pierre blanche. Mais il est des cris incompréhensibles qui nous parviennent au milieu du tumulte et dont nous ne savons que faire. Certains, lestés de haine, sont de véritables missiles qui nous anéantissent. D'autres sont envoyés distraitement, quand nous ne nous y attendons pas. Nous n'avons pas encore compris la portée d'un message que le suivant nous tombe sur le coin de la tête. Tantôt il nous éclaire, tantôt il brouille plus encore nos efforts de compréhension. Quelques déclarations sont limpides, d'autres sont illisibles. Et c'est avec cet arsenal de briques et de brocs qu'on se parle. Pas étonnant qu'on se comprenne parfois si mal. Alexandre et Caroline arrivent à ma consultation. Ils ont une quarantaine d'années et semblent tendus et malheureux. Ils s'asseyent côte à côte sur le divan. Je les invite à exprimer ce qui se passe au sein de leur couple. Pour pouvoir les aider, il faut d'abord que j'y voie clair. Ils se regardent, leurs yeux disent « Vas-y, commence !» avec gentillesse. Après un instant d'hésitation, Caroline prend le départ. Elle soupire, réfléchit, fait de gros efforts pour verbaliser ce qui la tourmente. Un mélange de colère et de tristesse. Son mari la regarde et l'écoute avec beaucoup d'émotion. Je lis autant de douleur que d'amour sur son visage. « Sincèrement, je ne me rendais pas compte, » dit-il, la voix tremblante. « Tu ne m'avais jamais dit ça. » Ils sont au bord de la séparation, épuisés par des mois de conflits, et semblent ne pas avoir pu se parler de manière à se comprendre véritablement. jusqu'à aujourd'hui. Que s'est-il passé? Quelles émotions ou quels enjeux ont brouillé leur possibilité de se parler, de s'écouter et de se comprendre? La communication ne fonctionne pas toujours mieux avec nos enfants et moins encore avec les ados. « Vous ne comprenez rien », lance-t-il avant d'aller s'enfermer dans leur chambre. Comment se fait-il que des parents, directement concernés par l'évolution de leurs enfants, les comprennent parfois si mal? Pourquoi, alors qu'ils les aiment et ont pour mission de les amener à l'âge adulte, découvrent-ils trop tard qu'ils ignorent un pan entier de leur vie, qu'ils ont perdu le lien et parfois même leur confiance? Quant aux relations que nous entretenons avec nos proches, parfois même nos plus chers amis, elles ne sont pas non plus dénuées de quiproquos. Pourquoi tant de malentendus? Quand tout va bien, les couples, les membres de la famille, les amis semblent complices et paraissent se comprendre à demi-mot. Parfois, nous envions leur connivence. Leur proximité affectueuse nous paraît aller de soi. Dans notre propre vie, en revanche, les relations ne sont pas toujours aussi faciles. Pour des petites choses toutes simples, parfois nous nous embrouillons. Même lorsque nous nous aimons et tendons vers un but commun, rien ne garantit que nous soyons sur la même longueur d'onde. Dès que les sujets deviennent sensibles, l'affection ne suffit plus. Bien écouter, bien s'exprimer et bien communiquer nécessite des attitudes réfléchies et conscientes, différentes de celles qui président à la discussion spontanée. Pourquoi est-ce si compliqué? Cet autre, si différent de moi. Nous sommes loin de concevoir l'image que les autres ont de nous. Même nos meilleurs amis nous perçoivent différemment de ce que nous croyons. Nous dégageons parfois une impression de confiance plus grande que ce que nous ressentons. Les gens nous voient plus sûrs et plus capables que nous ne le sommes réellement. Ou à l'inverse, un abord modeste et une élocution timide ont créé une impression de fragilité ou d'incompétence qui nous discrédite. Il arrive que nous ressentions cette petite discordance, mais pas toujours. Parfois même, nous préférons que nos proches nous imaginent meilleurs que nous ne pensons être. Après tout, ça fait du bien. Nous leur laissons cette illusion, quitte à vivre avec la crainte légère d'être démasqués. Nous nous sentons admirés à tort, par exemple, mais comme ce n'est pas désagréable, nous laissons faire. Nous pensons « s'il savait », mais nous nous taisons. À l'inverse, il arrive que nous nous sentions plus compétents que ce que les gens nous renvoient. Mais nous n'avons pas osé nous affirmer. L'image s'est construite sur un seul moment qui a été maladroit, mais elle nous protège d'une attente à laquelle nous n'avons pas envie de répondre. Ce clivage est normal. Nous avons de nous-mêmes une image intime. Nous nous percevons de l'intérieur. Nous entendons nos pensées et nous ressentons nos émotions. Personne ne connaît nos conflits internes, nos malaises, nos doutes et nos incertitudes cachées. Ni cette tristesse diffuse qui nous donne l'impression d'être seul au monde. Ou cette difficulté qui nous fait croire que notre vie est moins belle que celle des autres. Parfois, un besoin ou un manque nous paraissent criants, mais personne ne semble le percevoir à la hauteur de ce que nous vivons. Nous entendons nos souhaits et nos envies, nous connaissons la solidité de nos compétences, mais si nous n'avons pas trouvé le moyen de bien les exprimer, personne ne peut les deviner. À l'opposé, l'écart entre l'impression que nous font les gens qui nous entourent et ce qu'ils vivent intérieurement est évidemment tout aussi grand. Par exemple, nous pensons connaître un ami de longue date, mais nous découvrons encore, après de nombreuses années de complicité, une sensibilité que nous ignorions et que nous avons peut-être piétinée sans le savoir. Parce que ce n'était pas écrit sur son visage. Théoriquement, nous le savons, nous sommes tous différents. Mais en pratique, nous en tenons trop peu compte. Nous ne comprenons pas toujours la logique d'autrui. Ses besoins et ses sentiments ne sont pas nécessairement évidents. Nous ne voyons que ce qu'il veut bien laisser paraître. Tout le reste nous échappe. et qui plus est, nous avons nos propres grilles d'interprétation qui biaisent nos perceptions. Nous ne voyons de l'autre que la face tournée vers nous de la pointe émergée de l'iceberg dans le brouillard. Tout le reste nous échappe. Nous filtrons en fonction de nos habitudes, de ce qui nous paraît normal, mais aussi selon notre tournure de caractère. Si nous vivons une période heureuse, notre bonne humeur nous donnera davantage envie de voir le bon côté des gens. Alors que si nous traversons une période difficile, nous aurons tendance à ne prêter attention qu'aux problèmes. Certaines personnes, pour des raisons liées à leur propre histoire, ne voient que la face sombre des événements ou se font systématiquement l'avocat du diable. Leur filtre sélectionne les aspects négatifs de ce qui est énoncé sans qu'elles ne s'en rendent vraiment compte, alors que d'autres, de nature plus heureuse, font exactement l'inverse, tout aussi automatiquement. C'est le vase à moitié vide ou à moitié plein, vous le connaissez. Mais nous sommes également enclins à sélectionner en fonction de nos intérêts. Les situations de vie qui créent des problèmes sont toujours multifactorielles. Il n'est pas facile de les appréhender objectivement dans toute leur complexité. Nous opérons un tri dans les divers éléments qui constituent l'ensemble en retenant préférentiellement ceux qui nous conviennent, qui correspondent à ce que nous voulons vivre. Si quelqu'un exprime un doute entre deux versions, nous pouvons ne retenir que celle qui nous intéresse et y adhérer, à tort ou à raison. Ce fonctionnement génère de nombreux malentendus. L'erreur réside dans le fait que nous interprétons le discours de notre interlocuteur sans vérifier si nos suppositions correspondent à ce qu'il veut réellement exprimer. Et dans la direction inverse, nous supposons qu'il comprend ce que nous déclarons de manière identique à ce que nous pensons. Nous émettons un message avec nos mots, nos mimiques, nos sous-entendus, notre humour, toutes ces nuances qui nous sont si personnelles, et nous postulons qu'il nous a bien compris. Nous pensons que notre évidence l'est aussi pour lui. Il n'a rien compris. Je lui ai pourtant fait comprendre que je préférais le faire moi-même. Je n'aurais jamais imaginé qu'il prenne une telle initiative sans m'en parler. Nous lui avons fait comprendre. Nous avons imaginé. Mais qu'avons-nous dit exactement ? Avons-nous vérifié si nous nous comprenions bien ? Et comment nous y sommes-nous pris ? Nous avons tendance à prévoir ou à déduire une logique de comportement chez autrui, comme si la connaissance, somme toute assez partielle, que nous avons de lui, nous donnait suffisamment de certitude pour nous dispenser de vérifier. « Ah, désolé, je pensais que tu aimais ça. Je n'aurais jamais cru que ça te vexerait. » Oui. Je pensais, je n'aurais jamais cru. Mais ai-je vérifié? Ou juste supposé? Il peut nous arriver d'ébaucher un début de raisonnement, de nous poser une question à haute voix. Je me demande si cette voie-là ne serait pas la bonne. Ça me tente d'essayer. Tiens, et si on supprimait cette option? Mais notre interlocuteur l'entend comme l'expression d'une décision cohérente qu'il tient pour établie. Et il en tire des conséquences que nous n'avions pas prévues. Ces présomptions courantes, si elles ne sont pas contrôlées, ne sont qu'hypothèses à l'origine de fréquentes méprises. Quelques vérifications nous permettraient pourtant facilement de les éviter. Nous ne vivons pas la même chose. La réalité du monde en tant que telle nous échappe. Un événement n'a pas d'intérêt à lui tout seul. Il ne prend son sens que perçu par quelqu'un. Si une noix de coco tombe de son palmier sur une plage déserte, tout le monde s'en fiche. Si elle atterrit sur ma tête, je peux en mourir. C'est le même événement, mais la perception en est radicalement différente. Si une personne assiste à la scène, et que je n'en suis pas morte, mais juste un peu cabossée, elle peut rire aux éclats de cette drôle d'infortune. Nous aurons, elle et moi, une perception fort divergente de l'incident, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous en garderons un souvenir dissemblable, une émotion singulière, et nous le raconterons autrement l'une et l'autre. Dans cet exemple, c'est très clair. L'événement est simple, une noix de coco est tombée sur ma tête. Le début de l'histoire sera probablement assez semblable dans les deux récits, mais l'impact de la noix étant gravé bien différemment dans le souvenir de chacun, la suite du récit divergera certainement, peu quant aux faits qui sont assez basiques, mais largement sur l'ambiance, les émotions et les conclusions à en tirer. En revanche, dans nos histoires de tous les jours, celles qui minent nos relations professionnelles, assombrissent nos amitiés ou sont à l'origine de nos disputes, c'est plus complexe. Les événements s'échelonnent au fil du temps et sont multiformes. Le récit que chacun enregistre est bâti sur des interprétations. Notre mémoire étant par nature sélective, nous n'enregistrons pas chaque détail, nous n'en retenons qu'une partie en fonction de nos filtres personnels, ce qui nous intéresse, ce qui a de l'importance à nos yeux, selon notre sensibilité propre, les enjeux, le but que nous poursuivons, et aussi en fonction de nos croyances et convictions intimes, conscientes et inconscientes. Confrontés au même événement, nous en gardons chacun une impression différente, au point d'être parfois stupéfaits des autres interprétations. Et comme nous ne clarifions pas toujours au fur et à mesure, les non-dits s'accumulent et chacun échafaude dans son coin, puis réagit en conséquence. C'est là que commencent les difficultés de communication. « Non, ça ne s'est pas passé comme ça. »« Mais si, c'est toi qui as commencé. »« Comment ? Mais tu n'arrêtes pas de m'agresser. »« Quoi ? Mais jamais, jamais, voyons. »« Mais si, tu ne te rends pas compte comment tu t'emportes. » Plus nous collons à notre vision personnelle en pensant qu'elle est vraie, plus nous nous éloignons de notre interlocuteur, moins nous le comprenons et moins nous sommes ouverts à un vrai dialogue qui aurait pour but la concorde et non la défense de notre propre point de vue. Lorsque nous discutons, et a fortiori lorsque nous nous disputons, nous croyons qu'il y a une vérité, et nous tâchons de la trouver, de la soutenir ou de l'imposer. Nous sommes convaincus que la manière dont nous avons vécu les faits représente la vraie version, la bonne, la seule. C'est ce qui nous fait dire que nous avons raison et que l'autre a tort. Or, bien souvent, il n'y a ni tort ni raison, mais seulement deux visions différentes des mêmes événements. Quand je t'ai vu prendre ces initiatives, je me suis dit que tu préférais gérer les choses à ta manière. Mais tu as supposé ça tout seul dans ton coin. On n'en a jamais parlé. Non, je n'ai pas supposé, j'ai constaté. Quand tu as pris cette décision, ça me paraissait évident que tu voulais diriger les opérations toi-même. Quoi ? Mais c'est dingue, tu as complètement tort. Je n'ai jamais dit ça et même jamais souhaité. Écoute, je suis désolée si ta logique est particulière, mais moi je trouve normal de lier les deux. C'est en tout cas comme ça que j'aurais fait à ta place. Mais tu n'es pas à ma place et tu ne sais pas ce que je ressens. Tu imagines, tu supposes, mais tu ne vérifies rien. Cet échange tendu entre partenaires est une illustration de dérives fréquentes. L'homme, ici c'est un homme, mais les rôles pourraient parfaitement être inversés, suppose et conclut à partir de sa logique propre qu'il imagine être partagé par sa compagne. Il prend sa compréhension des faits pour avérée. Il a constaté, c'est la vérité. Il ne voit que l'apparence et ne se soucie pas de chercher une autre version qui conférerait une signification divergente à l'histoire, parce qu'il n'imagine pas qu'il puisse y en avoir une. On pourrait même lire ce dialogue avec un ton de voix qui le colorerait d'une nuance de mépris lorsqu'il prétend être désolé de sa logique particulière. Le timbre et les mimiques, qui forment l'expression non-verbale, soutiennent, dominent ou contredisent parfois le sens des paroles. C'est une autre source de confusion et de malentendu. Verbal et non-verbal. Nous nous exprimons autant avec les mots qu'avec le corps. L'intonation, l'expression faciale, les postures et les mouvements. Une personne centrée, alignée, dégage une impression de cohérence entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle exprime. Le dedans et le dehors sont en harmonie. On sent qu'elle sonne juste. Ses attitudes, ses paroles et ses comportements concordent de façon évidente. C'est ce qu'on appelle la congruence. En général, les personnes congruentes sont tranquillement solides et agréables à fréquenter parce qu'avec elles, on sait toujours sur quel pied danser. Elles n'ont pas besoin de masquer ce qu'elles ressentent, bien au contraire, elles l'assument. Mais il ne leur est pas nécessaire non plus de l'affirmer avec force, puisqu'elles sont lisibles et elles le savent. En revanche, lorsque nous percevons chez notre interlocuteur un désaccord entre ces deux registres, verbal et non-verbal, nous sommes un peu perturbés, à juste titre. Une personne peut se montrer séductrice par écrit, mais distante lorsqu'on est en sa compagnie. À quel jeu joue-t-elle ? Quelqu'un nous dit d'un ton énervé « Ok, ça va, je vais le faire ». Va-t-il le faire ou non ? Et s'il le fait, ne le fera-t-il pas à contre-cœur, à tel point que nous aurons vraisemblablement un prix à payer ? Si notre amoureux nous dit, d'un ton tristounet, « Non, non, ne t'en fais pas, tu peux passer la soirée avec tes copines, ça ne me fait rien, ça ira. » Avons-nous raison ou tort de sortir sans lui ? Que croire ? Les mots que chacun devrait assumer lorsqu'il les prononce ou le ton qui suggère l'inverse ? L'expression non-verbale en dit long. Parfois bien plus que les mots. Souvent, elle se suffit à elle-même. Un sourire éloquent, un geste affectueux, une bonne tape dans le dos, des sourcils qui froncent, des petits yeux pétillants, un bras autour des épaules, une moue dubitative, nous connaissons ce vocabulaire. Il nous est vraisemblablement commun. Mais pas toujours. Contrairement à ce que nous vantent les livres qui décodent le langage du corps, celui-ci est loin d'être universel. Il est tout aussi varié que l'est notre lexique verbal. Nous avons développé nos codes corporels en fonction d'une diversité de critères, comme nous l'avons fait pour notre vocabulaire. Par exemple, se passer la main dans les cheveux est signe de désir chez certains, mais aussi de nervosité. Et la nervosité n'est pas toujours liée au désir, loin s'en faut. Un tendre appui de la main sur l'avant-bras signifie « ne t'en fais pas, tu n'es pas seule » de la part de cet homme protecteur, mais est entendu comme « j'ai envie de toi » par celle qui en est secrètement amoureuse. Selon le contexte, mais aussi selon notre susceptibilité, hausser les sourcils veut dire « tu m'étonnes » ou « quel imbécile ». Il n'y a pas plus de langage corporel universel qu'il n'y a de codes verbaux communs. Dans les grandes lignes, on croit qu'on partage un lexique et qu'on se comprend, mais dans les nuances, chacun parle une langue qui lui est propre. Et pour se rapprocher les uns des autres, rien de tel que d'apprendre la langue de l'autre, mais aussi la nôtre. Parce que nous sommes assez peu conscients de la spécificité de nos lexiques verbaux et non-verbaux. Une large partie de notre expression, tant verbale que non-verbale, nous est inconsciente. Mais elle est lisible pour celui qui l'aperçoit. Avec ses propres filtres, il capte une coloration particulière qui accompagne nos messages et qui agit sur lui d'une manière que nous ne soupçonnons pas. Cependant, il arrive que l'émetteur du message soit très conscient et même lucidement volontaire lorsqu'il brouille les pistes en exprimant silencieusement une humeur qu'il choisit de ne pas verbaliser. Il boude, par exemple, sans donner d'explication, mais il sait que cette fâcherie fera de l'effet à son partenaire. Un effet désagréable et confus, éventuellement teinté de menaces. Mais comme rien n'est exprimé, il lui sera ensuite facile de nier les faits. Pour obtenir un assentiment, tel autre va sciemment séduire d'un simple regard, d'un sourire ou d'un ton de voix, alors que son jeu de charme ne correspond à aucun sentiment réel. C'est extrêmement perturbant. À la longue, nous concevons la personnalité de notre interlocuteur en fonction de ses messages subliminaux. Nous lui inventons une forme de logique basée sur des impressions peu claires et non vérifiées, perçues par nos propres filtres. Les décisions qu'il prendra ultérieurement ou ses réactions à nos comportements risquent alors de nous étonner, voire de nous déplaire. Aussi longtemps que nous ne mettons pas les choses à plat, nous conservons nos interprétations et nos explications douteuses, qui ne font qu'office de rustines, tout juste bonnes à colmater les failles de la version que nous croyons juste ou que nous voulons obstinément garder. SMS et compagnie. L'absence du canal non-verbal induit de nombreux malentendus dans nos mails, textos et autres tweets. Nous ne voyons pas le visage de notre correspondant, ni n'entendons sa voix, et ne percevons donc pas l'impact de ce que nous exprimons. Lui ne saisit pas toujours si nos propos relèvent de l'humour ou s'ils sont sérieux. Sa surprise, son plaisir, mais aussi sa douleur nous échappent. Outre le fait que l'immédiateté et la brièveté du texte empêchent la formation d'une pensée élaborée, les nuances sont absentes de ces mini-messages. Ils sont plats et désincarnés, malgré les petits smileys qui sont censés y ajouter de la couleur. Apparemment, le côté pile, c'est que nous osons écrire des choses tendres ou coquines que nous ne dirions pas en présence de la personne, et cette audace est très agréable aux timides si elle permet une suite heureuse et incarnée. Sans conversion dans la vie réelle, le jeu demeure assez stérile. Mais si nous préférons vivre dans un monde plus imagé que réel, c'est notre choix. En revanche, le côté face, nettement moins drôle, c'est que nous nous permettons aussi d'exprimer des propos avec une brutalité que nous ne risquerions pas de manifester les yeux dans les yeux. Un scud à distance. Et tant pis pour les dommages collatéraux. Depuis l'invention de la plume d'oie, nous correspondons par écrit. Et les malentendus liés au texte seul ont toujours existé. Mais la correspondance manuscrite traditionnelle reposait sur une composition plus réfléchie et plus nuancée, où les mots étaient pesés. La missive mettait quelques jours à arriver, et la réponse aussi. Ce délai permettait le recul et la réflexion. La pensée mûrissait avant la conception du texte. Aujourd'hui, nous sommes capables de draguer en deux mots et de rompre en un clic. Et cela fait de sérieux dégâts. J'ai beaucoup de respect pour toi et ne veux surtout pas te faire de mal, mais je ne me sens plus amoureux et ne peux plus me mentir. Je ne désire pas continuer notre relation actuelle. Je n'ai pas envie non plus de te voir pour en discuter. Ma décision est prise. Mais je suis désolée de la peine que je te fais. Alice reste figée devant son mail. Le lâche. Hier encore, il la cherchait sous les draps, et aujourd'hui, ce courriel. La brutalité de son rejet la blesse profondément. Comment peut-il retourner sa veste si violemment? Elle sent son ventre se serrer, ses mains trembler. La colère l'envahit. Un petit mail bien saucé et un clic de souris, c'est vraiment facile. On n'est pas confronté au mal qu'on fait. C'est petit. Alice médite sur ce qui s'est passé. Sa colère est légitime, elle le sent profondément. S'il pensait vraiment qu'il ne voulait surtout pas faire de mal, il ne devrait pas agir comme ça. Il y a quelque chose de tellement brutal dans cette coupure nette et cette absence de souci de l'autre. Rompre n'est jamais facile, ni pour celui qui subit, ni même pour celui qui prend la décision, mais il n'était vraiment pas nécessaire d'en rajouter. Il faut qu'il sabote, qu'il fasse mal. Elle se sent rejetée dans le froid et le silence, et c'est là que ça blesse. Du coup, il est drôlement descendu dans mon estime, se dit Alice. Ça m'aide à accepter cette rupture. Je me sens triste, mais plus encore en colère. C'est plus tonique. Pour le moment, en tout cas. Mais qu'est-ce que je souhaite? Essayer de le reconquérir? Je ne pense pas. Essayer de le culpabiliser? J'en ai un peu honte, mais ça ne me dérangerait pas. De toute façon, j'imagine bien que, même sans ça, il doit se sentir assez mal pour agir de la sorte et sans doute un peu coupable. Je le connais, je l'ai aimé, estimé, et il ne doit pas se sentir très fier de lui pour le moment. J'en suis sûre, et c'est bien fait pour sa pomme. Idéalement, j'aurais souhaité qu'on soit capable de mettre un point final en douceur et avec gentillesse à ces mois durant lesquels nous nous sommes découverts et avons essayé de nous aimer, avec nos peurs et nos blessures, avec nos espoirs et nos besoins, pas toujours compatibles, ces mois durant lesquels nous avons été proches, confiants l'un dans l'autre. Y sommes-nous parvenus? Quand sa colère se calme, Alice peut réfléchir plus honnêtement et s'interroger sur sa part de responsabilité dans ce qui arrive. S'il n'a pas pu me parler de vive voix, se dit-elle, c'est sans doute qu'il n'a pas osé. C'est plus facile de se fermer les yeux, mais peut-être craint-il aussi ma réaction. Mes tentatives de le convaincre qu'il a tort, mon envie de le culpabiliser, parce qu'il n'est pas vraiment fier de lui, parce qu'il doute, probablement. Cette décision a dû être difficile, c'est vrai, parce que nous ne nous détestons pas. Simplement, il n'est plus assez heureux dans cette relation, je dois bien l'admettre. Et il arrive à être plus ferme devant son clavier que devant moi. Bon, qu'est-ce que cela m'apprend sur moi-même? Lorsque nous recevons un SMS, sans les nuances nécessaires à son interprétation, nous les imaginons. Mais sur quoi nous basons-nous? Notre humeur du moment? Notre crainte d'y lire ce que nous ne voulons pas entendre? Notre envie d'y voir ce que nous souhaitons? Ce qui s'est déjà passé et qui ne peut que se reproduire? Notre inconscient qui nous gouverne? Nos démons qui se réveillent? Un peu de tout cela, sans doute, mais quoi qu'il en soit, nous échafaudons des hypothèses. Et c'est sur la base de celles-ci que nous répondons au message et que nous créons en retour un autre malentendu si notre interprétation n'est pas exacte. Aujourd'hui, c'est toute une génération qui communique par SMS. En tant que thérapeute, j'entends de nombreux récits de fiascos relationnels qui reposent sur les dérives des textos. Tout y est biaisé, autant les propos tendres que ceux qui sont brutaux. Et plus encore les silences. Lorsque l'un ne répond pas, l'autre ne sait plus quoi penser. Ne pas répondre est une réponse. Mais laquelle ? Ce vide est comme un emballage, mais que contient-il ? Que doit-on comprendre ? Le seul intérêt de cette situation très désagréable, c'est que cette page blanche est le lieu de projection de nos fantasmes. Nous y lisons ce que nous voulons, ou ce que nous craignons. Ces interprétations sont le reflet de notre monde intérieur, que nous projetons en guise d'explication sur un support très incomplet. Autant le regarder les yeux ouverts et apprendre à le décrypter. Comme au cinéma, nos projections interprétatives sont bien plus le produit de nos préoccupations, conscientes ou non, le projecteur, que la juste compréhension des messages minimalistes et plus encore des silences, l'écran blanc. Plus ils sont lapidaires, plus nous avons de place pour projeter nos fantasmes. Pour tout ce qui est sensible, que ce soit les prémices amoureuses, les difficultés relationnelles ou les colères et les frustrations, fuyons la communication par SMS. Les utiliser, c'est choisir délibérément d'ajouter à la difficulté de la situation elle-même l'incomplétude de ce type de message. Rien de tel que d'entendre la voix de la personne, et mieux encore, de la voir. C'est plus difficile. Mais c'est plus juste. Donc c'est mieux. La confrontation à la réalité de la personne, en chair et en os, nous évite bien des malentendus susceptibles de gâcher un lien précieux qui pourrait être sauvegardé. Conscient et inconscient. Comme si tout cela n'était déjà pas assez compliqué, non seulement la communication utilise les canaux verbaux et non-verbaux, mais elle s'inscrit également sur deux autres plans entremêlés, le conscient et l'inconscient. Avec entre les deux une zone intermédiaire assez floue, considérée comme subconsciente. C'est quoi exactement le subconscient? En vérité, il n'existe pas de couche distincte en matière de conscience. La conscience que nous avons de nous-mêmes est un processus dynamique, en constante amélioration, qui comporte des périodes de grande lucidité concernant des modes de fonctionnement que nous sommes aptes à reconnaître, mais également, de temps à autre, des périodes de régression. Certains sujets sont trop lourds. Nous ne nous sentons pas capables de discernement. Notre clairvoyance est en berne. Pour nous protéger des conséquences d'un regard pénétrant sur nous-mêmes, qui nous obligerait à modifier nos croyances et nos comportements, nous préférons, sans trop y réfléchir, reporter le travail à plus tard, et nous le refoulons dans le clair-obscur de notre subconscient. Cette zone intermédiaire, entre un inconscient qui n'a jamais connu les lumières de la clairvoyance et une conscience acceptée et responsable, est un territoire fourre-tout, une zone de semi-conscience qui a bon dos. Le refoulement, voire le déni, sont toujours plus faciles que l'honnêteté et la lucidité. On réécrit l'histoire à l'aune de nos besoins et le tour de passe-passe nous simplifie la vie. Pour un temps. Les archives entassées à la cave ressurgissent toujours un jour ou l'autre. En matière de communication, le plan conscient comprend plus de verbal que de non-verbal. Nous sommes conscients de ce que nous disons, en principe. Nous contrôlons globalement nos paroles. Mais d'autres forces nous dirigent. Des émotions, des intentions, des besoins dont nous ne sommes pas conscients. Et cette partie subconsciente ou inconsciente, ou consciente mais difficile à contrôler, transparaît en partie dans nos expressions non-verbales. Bien souvent, nous ne nous rendons pas compte de ce double canal. Nous ne tenons compte que de celui qui nous paraît le plus parlant, le verbal. Cependant, reconnaissons que de temps en temps, nos paroles dépassent notre pensée. Parfois, nous exprimons le contraire de ce que nous pensons, comme tout un chacun. Pourquoi ? Par politesse ? Pour éviter de vexer ? De peur d'affirmer une vérité trop dure ? Pour ne pas blesser ? Par crainte de la réaction de l'interlocuteur ? Pour éviter d'entrer dans un débat qui nous dépasserait ? Par timidité ? Parce que le contexte est trop complexe ? Parce que nous n'y voyons pas clair ? Pour éviter d'être trop ému et de laisser couler nos larmes ? Pour éviter de nous dévoiler et de nous montrer vulnérables ? Bref, nous avons toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises, de dire une chose et d'en penser une autre. Nos interlocuteurs sont-ils conscients de la discordance entre nos mots et ce que nous pensons réellement? À vrai dire, nous n'en savons rien. Nous ne savons pas vraiment si nos petits camouflages sont captés ou non, ni comment notre expression non-verbale est interprétée. C'est particulièrement visible lors de disputes. Il vient un moment où ce qui compte apparemment pour certains, c'est de gagner le combat, coûte que coûte. La recherche de la concorde n'est plus vraiment l'objectif, l'apaisement du conflit non plus. Ce qui domine, c'est le besoin d'avoir raison et d'attribuer la responsabilité du problème à l'autre. Les paroles deviennent excessives, les phrases sont assénées, on manque cruellement de nuances et on finit par utiliser les mots comme des armes. C'est infernal. On ne peut jamais te faire confiance. Tu es vraiment de mauvaise foi. Ah oui ? Mais c'est toi qui fais toujours tout foirer. Tu mens comme tu respires. Quoi ? Et qui a décidé de passer Noël chez ta mère ? Tu crois que ça m'amuse d'écouter ces sempiternels commérages ? Mais qu'est-ce que ma mère a à voir là-dedans ? Tu es odieux, avec tout ce qu'elle fait pour nous. Pourquoi ces dérapages sont si fréquents ? Alors qu'à l'origine, une discussion devrait avoir pour dessein de résoudre les problèmes. La colère brouille les consciences, et comme un cheval fou, la discussion cavalcade sur des chemins qu'elle n'aurait jamais dû emprunter. Après ce galop enragé, les cavaliers se retrouvent un peu sonnés, atterrés par tout ce qu'ils se sont dit. Sur le plan de la séduction, c'est pareil. On s'échange des mots doux, un petit jeu du chat et de la souris s'initie. Mais ces déclarations ont-elles la même importance pour chacun ? L'un batifole avec légèreté, tandis que l'autre se laisse doucement séduire. Le premier est-il conscient de l'impact de ces charmants messages ? Est-ce une manière intentionnelle de se rassurer sur son potentiel de séduction ? ou est-il réellement innocent et inconscient? Et si ça m'arrangeait? Les liens les plus précieux, pour nombre d'entre nous, sont ceux qui tissent notre univers affectif, les relations amicales, amoureuses et familiales. Dans notre vie professionnelle, nous investissons parfois du temps et de l'énergie dans l'apprentissage relationnel, séminaires en management, coaching en communication, etc. Alors que dans la sphère affective, où l'art de la relation est bien plus délicat et où les enjeux sont primordiaux, on ne nous enseigne pas à vivre en couple ni à être parent. L'école nous apprend rarement à bien communiquer, et moins encore avec un être aimé, un enfant qui grandit, un parent qui vieillit, tous si proches et si différents. Bien souvent, ce sont eux qui encaissent nos maladresses. Pourquoi laissons-nous des situations en jachère? Et parfois très consciemment. Pourquoi perpétuons-nous des modes de communication qui crispent ou qui n'aboutissent pas à ce que nous souhaiterions? Je te l'ai déjà dit 100 fois. Comme si, à la 101e fois, cela allait enfin changer. Sommes-nous vraiment inconscients ou avons-nous un intérêt à laisser le climat se dégrader? Pourquoi nous disputons-nous avec les gens qui nous sont les plus chers? À qui profite le crime? Mon travail de thérapeute me permet d'entrevoir le côté sombre des personnalités, cette obscurité qui parfois nous échappe et dont nous ne sommes pas très fiers, pour peu que nous en soyons conscients. Ces petits travers ou ces pensées politiquement incorrectes que nous ne révélons pas volontiers et que nous avons parfois un mal fou à reconnaître. Nous voudrions devenir celui ou celle que nous aimerions être, sans zone d'ombre, sans honte, sans petite mesquinerie ou autre mocheté. Cependant, grâce à l'introspection, qui nécessite autant de courage que d'honnêteté, nous devons admettre que nous ne sommes pas toujours tels que nous le souhaiterions, et notamment que nous n'avons peut-être pas intérêt à aller au bout de certaines choses, à faire les efforts requis pour mettre les mots justes sur ce qui se passe en nous ou dans la relation. Il nous est plus facile, quelquefois, d'accuser l'autre, plutôt que de reconnaître notre participation à la dérive. Décortiquer une situation tendue demande une grande maîtrise. Nommer les difficultés sans rajouter d'huile sur le feu, également. Reconnaissons que parfois, nous n'exprimons pas véritablement ce que nous ressentons, ni ce que nous voudrions vraiment. Nous ne vérifions pas non plus comment nous avons été compris par notre interlocuteur. Nous laissons planer le doute. « Ça ne te dérange pas si j'allume la télé ?» demande-t-il en prenant déjà la télécommande. « Non, non. » répond-elle doucement sans lever les yeux. Mais ensuite, comme chaque soir, elle ne peut plus lire paisiblement son roman et elle finit par monter se coucher. Comme chaque soir, elle lit quelques pages et s'endort avant qu'il ne la rejoigne. En fait, ça l'arrange. Leurs rares ébats nocturnes ne lui laissent qu'un souvenir de lassitude et d'insatisfaction. Quant à lui, avachi devant sa série policière, il préfère ne pas analyser ce mélange de soulagement et de déception quand il la voit disparaître. Et dans la chambre, il étouffe sa frustration de voir sa femme endormie lorsqu'il se glisse sous les draps, comme chaque soir. Il ne dit rien, craignant de gâcher l'équilibre apparent de leur ménage. Ou peut-être que, lui aussi, il s'en accommode. Il accumule les déconvenues et prépare ses futurs reproches. Si leur vie sexuelle part à la dérive, cela lui convient de penser que c'est à cause d'elle, plutôt que de se demander pourquoi sa femme le fuit. Se taire les arrange l'un comme l'autre. Cela leur évite de réfléchir à la manière dont ils s'aiment. Cela peut paraître curieux ou idiot. Peut-être n'agissez-vous jamais comme les membres de ce couple usé, ou peut-être ne vous en rendez-vous pas compte. Cette honnêteté vis-à-vis de soi-même n'est pas à la portée de tous. Elle nécessite un entraînement. Pour certains, elle n'advient qu'après un bout de chemin avec un thérapeute ou un long travail sur soi. Pour d'autres, à force d'efforts et de rigueur de pensée. Mais quoi qu'il en soit, il est fréquent de ne pas comprendre ce que l'on vit et de ne pas dire ce que l'on pense, ou même dire le contraire. Non parce que l'on choisit de mentir délibérément, mais simplement parce que nous n'osons pas, ou que des paroles s'imposent à nous par habitude ou facilité, avant même que nous ayons pris le temps d'y réfléchir. Parce que ça nous arrange. On pourrait se dire « Et alors, si ça nous arrange, c'est que c'est mieux comme ça. » Parfois, peut-être. Mais souvent, les conséquences se font sentir plus tard. Nous regrettons alors d'avoir dit ce que nous avons dit, ou d'avoir tu ce que nous pensions, ou ce que nous aurions dû dire. Parfois, nous sentions que nous avions tort, mais c'était plus fort que nous. C'est un mode de fonctionnement qui nous est tellement habituel qu'il est difficile de le modifier. Nous savons que ce n'est pas vraiment clair, pas tout à fait vrai, que nous parlons trop vite ou que nous nous laissons aller, mais nous nous en accommodons. Nous percevons bien que l'autre n'a peut-être pas tout compris, mais nous ne vérifions pas. Le silence, le faux ou l'à peu près, nous paraissent plus aisés que la précision et la vérité. Ces évitements nous préservent d'entamer une discussion délicate, de nous regarder en face et de nous mettre en question. L'approximation paresseuse nous semble plus douce que la rigueur des propos assumés. Parce que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il est plus facile de mal communiquer que d'aller au bout des choses. Ensuite, c'est tellement simple d'attribuer les torts à celui qui n'a rien compris. À partir du moment où nous en sommes conscients, nous pouvons choisir entre la fermeté d'une pensée aboutie, soutenue par une expression réfléchie, et la mollesse des mots approximatifs, superficiels et incontrôlés, mais nous aurons à faire face aux conséquences. C'est notre responsabilité. Les paroles sont des actes. Que nous le voulions ou non, nous sommes responsables de nos actes et de nos paroles. Nous sommes responsables de ce que nous faisons et de ce que nous choisissons de ne pas faire. Tout comme nous sommes responsables de ce que nous disons et de ce que nous omettons de dire. Nous devons l'assumer. Cette conscience nécessite de bien comprendre comment l'humain fonctionne. Les malentendus et les fiascos nous semblent rarement volontaires. Nous ne cherchons pas délibérément à saboter nos relations ni à voir nos projets capotés. La compréhension de nos propres mécanismes nous échappe souvent. Parfois, cette lucidité nous apparaît fugacement, comme un petit oiseau qui voltige un court moment devant nos yeux, mais qui, bien vite, s'envole ailleurs. Il nous faut de la volonté et de la vigilance pour maintenir cette conscience éveillée et ne pas la réenfouir dans les brumes de la facilité. Mais cela vaut la peine, parce que c'est cette conscience honnête et rigoureuse qui nous rend adultes. Poursuivons l'exploration de ces fonctionnements curieux qui pavent les routes de la communication. Le monde est comme je crois qu'il est. Psychologiquement, il est plus simple de continuer à croire que le monde est comme nous croyons qu'il est, plutôt que de découvrir que nous nous illusionnons. Le maintien de nos idées établies sur la vie, les gens et comment le monde fonctionne est plus facile que leur remise en question. De quand datent nos convictions? En grande partie, elles prennent racine dans l'enfance ou durant notre jeunesse, au sein du milieu social qui nous a vu grandir et qui a forgé nos croyances et nos certitudes. Françoise a été une petite fille triste, élevée par des parents éteints, un peu dépressifs, qui travaillaient beaucoup et ne s'aimaient pas. Ils n'étaient pas violents, subvenaient aux besoins matériels de leur enfant, mais ne s'intéressaient pas véritablement à sa vie, ne l'écoutaient que d'une oreille distraite et ne jouaient jamais avec elle. Elle se sentait encombrante et inintéressante. Sans encouragement, elle ne réussissait pas bien à l'école, malgré ses efforts, et donnait donc raison à ses parents qui affirmaient qu'elle était bête et qu'elle n'arriverait jamais à rien. Aujourd'hui, elle exerce un métier de routine, assez en dessous de son potentiel, et s'ennuie avec un mari qui ne l'aime pas. Mais elle ne vaut pas mieux, pense-t-elle. Ses parents avaient raison. Elle ne fait rien de bon. De toute façon, la vie est comme ça. Ils l'ont démontré durant des dizaines d'années avec autant d'inconscience que d'acharnement. Et elle n'est pas assez intelligente pour y remédier dans sa propre existence. Il lui est plus simple de persister à le croire que de reconnaître que ses parents étaient eux-mêmes très limités et psychiquement destructeurs. Quel vertige ! Cela signifierait de les faire descendre de leur pauvre piédestal et d'accepter de voir qu'ils l'ont trompé à longueur d'année, et qu'elle leur donne raison encore aujourd'hui alors qu'ils sont 6 pieds sous terre. Vivre autrement ? À quoi bon ? Le monde est comme il est, rien ne sert de vouloir en changer. La plupart de nos fonctionnements inconscients se mettent en place durant la prime enfance. Plus ils sont précoces, moins ils sont conscients. Selon les circonstances de notre vie, avec notre petite jugeote d'enfant, nous interprétons ce qui nous arrive et nous en tirons des conclusions. Par exemple, un enfant un peu timide peut comprendre que pour avoir la paix, il vaut mieux faire ce que les autres décident. Ce genre de conclusion peut rester sa norme toute la vie. Un autre, peut-être un peu plus vigoureux, va conclure que pour exister, il faut s'imposer, sans quoi on est écrasé. Ce fonctionnement persiste encore chez des adultes qui ne le nuancent plus. C'est comme ça, un point c'est tout. Cette croyance est tellement intégrée à leur personnalité qu'elle en constitue un pilier. Ce trait de caractère paraît immuable, mais il ne l'est pas. Si un individu mesure combien cette manière d'agir figée lui fait du tort, il peut la mettre en question et apprendre à moduler ses comportements. Mais il est vrai que la transformation de nos mécanismes inconscients est longue et difficile. Elle remet tout l'édifice en question. Et souvent, cela nous semble hors de portée. Plus tard, au cours de notre croissance, nous avons accès à une capacité de verbalisation plus grande et donc à une analyse plus consciente de ce qui nous arrive. La remise en question des comportements qui ont pris naissance durant la jeunesse ou l'âge adulte est un peu plus accessible. Par exemple, lorsque nous étions adolescents, nous avons commencé à comprendre ce qu'il convenait de faire ou de dire pour nous sentir appréciés et intégrés au groupe. Les copains, plus âgés ou plus dégourdis, imposaient la tendance et nous tâchions de nous y adapter, quitte à taire nos opinions personnelles et à en manifester de plus consensuelles. Les autres nous impressionnaient parfois, ils nous donnaient l'impression de savoir, alors que nous nous sentions mal à l'aise. Toutes les adolescences ne se ressemblent pas, mais c'est une période où l'importance des relations est à son comble. Les ados réfléchissent, mais n'ont pas encore le recul, l'expérience et la maturité des adultes. Beaucoup d'idées conscientes, mais simplistes sur les fonctionnements humains, prennent racine durant cette période. Elles s'étofferont et se nuanceront si l'émulation intellectuelle liée à un développement intelligent le leur permet. Une famille où l'on se parle avec respect, un environnement large d'esprit, des études qui stimulent la rigueur et la remise en question y contribuent, évidemment. Nos convictions se sont parfois aussi forgées au cours d'une période où nous vivions des circonstances particulières qui n'ont plus cours actuellement. Une maladie grave, un divorce parental difficile, une déconfiture financière de la famille. Aujourd'hui, la vision du monde qui en a découlé est installée et imprègne nos comportements. Qui plus est, elle génère même des fonctionnements qui la confirment. Cette étonnante torsion de la vérité, ce mécanisme qui crée ce que nous voulons croire, nous le voyons parfois chez autrui. Par exemple, lorsque quelqu'un dit « les gens sont hypocrites », nous sentons que cela lui convient de le penser. Il ne prend pas en compte ce que tout le monde sait. Il n'est pas facile de dire les vérités en face. Il peut ainsi continuer à en vouloir à la terre entière, plutôt que de prendre conscience de la manière dont il coince les gens ou dont il les impressionne, et ces derniers finissent par approuver ce qu'ils désapprouvent ou taisent ce qu'ils pensent réellement pour avoir la paix. Après quoi, il n'est pas difficile d'y voir de l'hypocrisie. D'une certaine manière, nous faisons tous la même chose. Nous voyons ce que nous voulons voir. Nous croyons ce qui nous convient, Émettre une généralité sur une personne ou sur les gens nous permet de définir notre environnement de façon à expliquer ce que nous ressentons. Nous affirmons que telle personne est comme ceci ou que les gens sont comme cela, ce qui évacue les nuances et la diversité de la réalité. Nous réécrivons l'histoire de manière à ce qu'elle coïncide avec nos convictions